Valentina Otmačić, merci beaucoup de nous accorder cette interview en direct de la Croatie.
Bonjour Florence, et merci de parler aujourd'hui.
Donc ces derniers jours, le secrétaire général des Nations Unies a lancé un rapport sur les risques auxquels sont confrontés les enfants durant cette crise. Et l'UNICEF a aussi montré que justement les enfants sont aussi les victimes cachées de la pandémie du Covid-19 et a lancé aussi un programme d'action pour protéger les enfants. Donc peut-être justement pour recommencer, quel est le nombre d'enfants qui souffrent de ce confinement ?
Alors, la pandémie de Covid-19 vraiment risque de se transformer en crise des droits de l'enfant. Selon notre analyse, 99% des enfants dans le monde subissent une forme de restriction des mouvements qui sont liés à la Covid-19. Presque tous les enfants du monde. Parmi eux, il y a 60% des enfants qui vivent dans les pays où le confinement est soit total, soit partiel. Comme vous voyez, cette crise vraiment pose des défis et des risques énormes pour les droits de l'enfant.
Et on va commencer à parler des différents aspects où les enfants sont affectés. Donc, que voyons-nous en matière de santé qui affecte ou pourrait affecter la santé des enfants ?
En matière de santé, la COVID-19 risque vraiment de submerger des systèmes de santé qui sont déjà fragiles dans des pays à revenus faibles surtout, et d'anéantir les progrès réalisés depuis plusieurs décennies en matière de survie, de santé, de nutrition et de développement des enfants. Ce que cette crise nous enseigne, comme dit aussi le secrétaire général des Nations Unies, c'est que nous sommes aussi forts que le plus faible des systèmes sanitaires. Alors la seule façon d'en finir avec la crise, c'est vraiment de renforcer des systèmes sanitaires qui sont faibles. Un nombre très élevé des systèmes de santé nationaux connaissent déjà des difficultés. Par exemple, avant la crise, 32% des enfants à travers le monde qui présentaient des symptômes de pneumonie n'étaient pas amenés en consultation chez un professionnel de santé. Soit il n'y avait pas de services, soit il n'y avait pas de moyens, mais la situation deviendra même pire dû à la COVID-19. Nous observons déjà des perturbations dans les services de vaccination, comme la polio, la rougeole et le choléra. Et dans ce moment où tout le monde se rend compte de l'importance de la vaccination et tout le monde attend avec impatience la vaccine contre le COVID-19, nous risquons de perdre beaucoup de nouveau-nés, d'enfants, de jeunes et de femmes enceintes pour des causes étrangères au coronavirus si le système de santé nationaux qui subissent déjà une forte pression sont totalement subrégés. Nous sommes aussi inquiets pour les programmes de nutrition. Ces programmes sont aussi perturbés, souvent suspendus, et cela peut amener à une augmentation de la malnutrition parmi les enfants.
Mais aussi, pour beaucoup d'enfants, les enfants sont aussi déscolarisés. Bien que certains enfants aient accès à l'enseignement à distance ou l'Internet, ce n'est pas le cas pour tous. Donc, qui sont les plus affectés et qu'est-ce que cela pourrait entraîner à long terme?
Oui, dans le domaine de l'éducation, il y a toute une génération d'enfants qui a subi une interruption d'enseignement. Cette crise aussi nous fait voir clairement les inégalités. Comme vous dites, il y a des enfants qui ont accès à un enseignement à distance. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de cet accès. Les systèmes d'éducation partout dans le monde, avec l'aide d'UNICEF, cherchent des solutions à ce problème. C'est un moment où vraiment nous devons redoubler d'efforts pour nous assurer que tous les enfants disposent d'un accès équitable à l'apprentissage. Ce n'est pas un moment pour détourner des fonds nationaux alloués à l'éducation. Nous avons beaucoup d'expérience avec la fermeture d'écoles dans les crises précédentes, par exemple dans la crise d'épidémie d'Ebola, et nous avons appris plusieurs leçons. Nous avons appris que les élèves, et en particulier les filles dans les pays du monde qui sont déscolarisées pendant un long moment, ont peu de chances de retourner en classe une fois que les écoles rouvrent. Nous avons aussi appris que la fermeture des écoles interrompt l'accès à des programmes de nutrition que j'avais mentionné avant. Alors beaucoup d'enfants s'appuient sur ces programmes Et s'il n'existe pas, si les écoles sont fermées, nous avons un risque élevé de grimper les taux de malnutrition. Alors le potentiel d'une génération entière est dans nos mains. D'une façon, l'éducation doit continuer, l'équité de l'éducation doit être renforcée pour ne pas vraiment perdre toute une génération des enfants, leur potentiel et leur avenir.
Et aussi, bien sûr, dans beaucoup de familles, leur situation économique est devenue précaire ou vraiment dramatique. Et cela provoque un stress, bien sûr, sur toute la famille. Mais ces enfants aussi risquent d'être confrontés à des violences et des abus, ainsi que des conséquences négatives en ligne. Donc, vous pouvez nous donner des exemples. Quelles sont ces violences ou abus? Et quelles sont ces conséquences négatives en ligne? Et que fait l'UNICEF à ce sujet?
Tout à fait, comme je dis, la clôture des écoles et cette situation où tout le monde est confiné chez soi augmente certains risques. Nous avons beaucoup appris des expériences précédentes et nous essayons de construire sur ces leçons que nous avons apprises. Il y a un risque accru d'exploitation, de violence et d'abus lorsque les écoles sont fermées et les services sociaux sont interrompus et les mouvements sont limités. Pendant l'épidémie d'Ebola, comme j'avais déjà mentionné, la période de fermeture d'école a entraîné des fortes augmentations du travail des enfants, des négligences, des abus sexuels et même des grossesses chez les adolescentes. Il ne faut pas oublier que vraiment, quand on regarde les taux de violence, ils sont les plus hauts dans le domicile. C'est quelque chose que pas beaucoup de monde connaît, mais vraiment le domicile est un endroit qui est assez dangereux pour certains enfants. Et quand les enfants n'ont pas les relations avec les enseignants, leurs amis, les services de protection, leur situation peut devenir même plus grave. Alors l'UNICEF, avec les gouvernements partout dans le monde, cherche des solutions alternatives, disons, que les enfants soient bien protégés même quand ils sont chez eux. Un autre risque qui est plus élevé, c'est le risque des abus en ligne. Aujourd'hui, les enfants passent beaucoup de temps en ligne. Les nouvelles technologies leur permettent de continuer l'éducation, mais en même temps, il y a des risques augmentés, des abus sexuels en ligne auxquels il faut faire attention. Et nous faisons beaucoup d'éducation pour les enfants, pour leurs parents, pour savoir reconnaître et répondre à ces risques.
Et bien sûr, il y a les enfants aussi réfugiés ou déplacés qui sont confrontés à des problèmes aussi pendant cette crise. Donc, à quoi sont-ils confrontés eux-mêmes?
Les enfants réfugiés déplacés, même avant la pandémie, trouvaient beaucoup de problèmes de sécurité, de bien-être. Leurs droits sont déjà menacés chaque jour. Beaucoup de ces enfants ont un accès très restreint à des soins et des installations de santé élémentaires. Leurs conditions de vie, quand vous imaginez des camps de réfugiés, le logement des migrants, ces conditions ne se rendent pas à l'éloignement physique dont on parle tous ces jours, qu'il faut pratiquer pour éviter les risques. Ce logement leur expose encore plus à des risques de COVID-19 à eux et à leur famille qui se trouvent dans les camps. Il est très important aussi que la pandémie ne nous fasse pas oublier les besoins humanitaires de ces enfants réfugiés, déplacés, émigrants. Et le secrétaire général des Nations Unies a appelé un cessez-le-feu mondial pour nous concentrer sur un ennemi commun. C'est le virus qui ne connaît pas des frontières. Dans les pays qui sont ravagés par la guerre, les systèmes de santé, comme vous le savez, ils sont déjà à bord de l'effondrement. Et comme j'ai dit, nous sommes aussi forts dans la lutte contre le virus comme le plus faible des systèmes sanitaires. Alors la communauté mondiale a vraiment la responsabilité de faire soutenir les enfants les plus vulnérables, ceux qui ont été arrachés à leur famille, à leur maison, et de les protéger contre toute violation de leurs droits, même dans cette situation de pandémie.
Et quels sont donc justement les éléments clés du plan d'action de l'UNICEF pour protéger les enfants pendant cette pandémie, pendant cette crise?
À l'UNICEF, nous avons fait une analyse de la situation actuelle, mais aussi nous avons essayé d'imaginer et utiliser toutes les données et les expériences pour faire face aussi aux défis dans un avenir proche que les enfants et leurs familles vont faire face, nous avons déterminé 6 points d'action. 1, protéger la santé des enfants, bien sûr. Après, fournir des services d'approvisionnement d'eau, d'assainissement et hygiène aux enfants vulnérables. 3, nous assurer que les enfants puissent poursuivre leur apprentissage. Après, aider les familles à subvenir à leurs besoins et à s'occuper de leurs enfants. Protéger les enfants de la violence, de l'exploitation et de la maltraitance. Et protéger en particulier les enfants réfugiés et migrants et tous ceux qui sont affectés par des conflits. Dans tous ces 6 points, nous faisons d'un côté un plaidoyer au gouvernement et à nos partenaires, mais en même temps, nous contribuons comme UNICEF à des solutions pratiques sur le terrain. Nous avons toujours des équipes partout dans le monde qui sont en train de faire plusieurs choses, d'acheminer des équipements de protection, des vaccins, des produits nutritionnels pour sauver des vies. Nos équipes qui font diffuser des messages et conseils de santé publique à différents publics, y compris les enfants, qui fournissent aux enfants des possibilités de s'exprimer, qui font stimuler leur santé mentale. Alors, nos équipes restent sur le terrain pour protéger les droits et le bien-être de chaque enfant. Nous sommes là toujours avant, durant et après la crise. Et c'est le même cas ici, maintenant, avec la crise de la COVID-19.
Valentina Otmačić, vous auriez peut-être un dernier message?
Alors, les enfants se montre aujourd'hui très empathique, je dirais, avec les membres plus âgés de nos communautés. Les enfants, heureusement, ne sont pas les victimes directes de la COVID-19 en matière de leur vie. Mais cela ne veut pas dire que les enfants vont bien. Les enfants sont souvent les victimes cachées de cette crise. Leur prévenir de sortir de la maison, le fait qu'ils ne peuvent pas voir ses amis, les enseignants, leur éducation qui a été interrompue, tout cela a des effets sur les enfants. Alors, il faut parler avec les enfants, il faut nous assurer chaque jour que les enfants ne subissent pas les conséquences de cette crise ou les aider à minimiser les conséquences de cette crise. Il ne faut pas oublier les enfants qui vraiment nous aident à sortir de cette crise en se portant à la maison, en continuant leur éducation et en aidant aux adultes à survivre ce moment difficile dans notre histoire.
Valentina Otmačić, merci beaucoup pour cette interview.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.